Alors, bonjour à tous, je remercie l'équipe du CNRHP de m'avoir convié à cette journée pour présenter ce sujet. Donc, on va faire une petite parenthèse des alo-immunisations pour parler des infections materno-fœtales à parvovirus, des différentes formes cliniques pendant la grossesse et essayer de définir certains critères pronostiques également. Pour comprendre les phénomènes in utero en cas d'infection à parvovirus, il est intéressant déjà de revenir à la base de comprendre la cinétique de ce virus chez l'adulte en général. Donc, c'est un virus qui se manifeste cliniquement dans un certain nombre de cas, mais pas toujours en deux phases. Donc, il y a une phase de prodrome et puis ensuite classiquement une phase de rash et d'arthralgie. Chez la femme enceinte, ces signes cliniques sont présents seulement dans moins de 20% des cas. Parallèlement, vont apparaître des signes hématologiques, il y en a beaucoup, principalement sur la lignée rouge, avec une lyse des érythroblastes intramédulaires. Donc, qui commence dès les premiers signes cliniques, et puis une anémie qui va se prolonger quelques jours par la suite. C'est un virus à ADN qui est détectable par PCR dès l'apparition de la virémie, avec des techniques qui sont très sensibles. Sur le plan immunologique, on voit apparaître également, 7 jours après la phase de pic virémique, une séroconversion avec des IgM, puis des IgG spécifiques. Donc, pendant la grossesse, évidemment, on n'a pas étudié ces phénomènes cinétiques sur des larges séries de fœtus, mais ça peut permettre de comprendre les choses. Sur l'histoire naturelle de l'infection materno-fœtale cette fois-ci, le parvovirus évolue par cycle épidémique, environ tous les 5 ans, et on considère qu'il y a un contact chez la femme enceinte, enfin, il y a environ 2% d'infections à parvovirus chaque année chez les femmes enceintes, alors évidemment à différents stades de gravité. Et lorsqu'il y a une infection à parvovirus chez ces femmes qui ne sont pas immunocompétentes, il peut y avoir des conséquences très variables. Le passage transplacentaire du virus se fait d'à peu près à la moitié des cas. Et le parvovirus a un tropisme très particulier qui est compris en partie, mais pas complètement. Donc évidemment, la partie la plus importante et qui va se manifester cliniquement de manière plus manifeste, c'est la crise érythroblastique avec une atteinte centrale de l'érythropoïèse fœtale, donc qui va évidemment provoquer une anémie profonde. Et puis il y a un tropisme également myocardiaque avec parfois une atteinte myocardique et des insuffisances cardiaques d'origine virale. D'autres organes peuvent être atteints, je ne vais pas tous les citer, mais classiquement le foie avec une hépatite et une hypoalbuminémie secondaire. Et sur le plan obstétrical, on n'en parle pas assez, il peut y avoir une atteinte placentaire avec une placentite, on y reviendra plus tard. Donc en fonction du tropisme pour chaque patient, pour chaque fœtus de ce virus, de l'atteinte de un ou plusieurs organes et puis de la durée d'exposition chez le fœtus, on va avoir des conséquences variables et des présentations diverses au niveau clinique. Et c'est ce que je vais vous présenter. Que lorsque l'anémie est profonde, associée ou non à une cardiopathie, on va se retrouver avec des tableaux d'anasarc parfois catastrophiques qui peuvent aboutir à des morts fœtales, mais parfois, même en l'absence de traitement in utero, à des guérisons spontanées, pourvu qu'on passe le cap de la crise érythrocytaire. Quels sont les modes de découverte? Alors, idéalement, mais c'est une situation relativement rare, il est bon de faire un diagnostic dès la phase initiale. Lorsqu'on a une notion de comptage dans une famille avec une fratrie, des enfants en bas âge qui ont la cinquième maladie, l'exanthème typique du parvovirus, on peut faire une surveillance sérologique de la maman avec un diagnostic sérologique, l'apparition d'une séroconversion réelle. Et dans ces cas-là, une surveillance échographique peut être démarrée avant même l'apparition de l'infection fœtale. Généralement, on prolonge cette surveillance jusqu'à un terme avancé, mais c'est une situation relativement rare. La plupart du temps, malheureusement, on est confronté à des patientes qui sont adressées pour la découverte fortuite à l'échographie de dépistage du deuxième trimestre le plus souvent, parfois du troisième trimestre précoce, mais le plus souvent à 22 semaines, découverte d'anasarc fœtal et puis ou d'un épanchement d'une séreuse isolée. Alors, il y a une fenêtre de susceptibilité qui est importante durant la vie fœtale. C'est autour justement de cette échographie du deuxième trimestre, entre 16 et 24 semaines, puisque le mécanisme de passage placentaire du virus va passer par l'antigène P placentaire qui est présent majoritairement au deuxième trimestre. De même, le développement fœtal va faire que le fœtus va avoir un besoin majoré en hémoglobine et une érythropoïèse, une augmentation d'érythropoïèse massive à ce moment-là, intrahépatique, et qui va justement favoriser l'effet pathogène du virus. De la même manière, là, il y a une diminution de vie des hématies en elles-mêmes pendant cette période. Donc ces trois facteurs conjugués font que on se retrouve vraiment dans une zone à risque. Donc, on peut résumer les choses ainsi. On a un pic virémique qui apparaît avant 22 semaines, et puis secondairement l'apparition d'une anémie fœtale qui va se prolonger quelques jours, quelques semaines jusqu'à régression spontanée si le fœtus tolère les choses. Et puis, parallèlement, progressivement, vont apparaître des épanchements des séreuses qui vont pouvoir persister toute la grossesse, parfois même après la grossesse. Majoritairement, des cas d'ascite, on y reviendra dans notre série. Alors le diagnostic, une fois qu'on a suspecté l'infection à parvovirus, ou une fois qu'on est en face d'une anasarque, il faut pouvoir déterminer l'étiologie précise, et donc ça passe par le diagnostic d'anémie fœtale. Donc ce que vous ont présenté Stéphanie et Lucie tout à l'heure reste vrai par rapport aux vélocités de l'artère cérébrale moyenne. C'est un test qui est tout à fait valide en cas d'infection à parvovirus B19. Donc quel que soit le mécanisme de l'anémie, on peut utiliser cet outil qui a une validité très importante. Sur le plan du traitement, donc évidemment il n'existe pas de traitement antiviral, le seul traitement in utero qu'on peut proposer dans ces formes sévères, ça va être la correction de l'anémie par transfusion in utero, et donc la technique ne diffère pas, je ne vais pas revenir sur cette technique. Par contre, il faut savoir que les conditions hémodynamiques et hématologiques du fœtus sont un peu différentes que pour des fœtus anémiques à cause halo-immune. Et donc, on a plus souvent de complications, et les récidives de l'anémie, lorsque on se trouve en phase virémique, sont plus précoces. Donc, le message est de corriger de manière prudente par rapport au fait que le fœtus va peut-être moins bien tolérer sur le plan hémodynamique cette transfusion, et vraiment se méfier des récidives précoces. Les autres traitements qui ont été peu étudiés, parce que c'est des courtes séries, on peut parfois, en cas d'épanchement atypique, persistant, réfractaire, faire des drainages itératifs, notamment au niveau de la plèvre. Il a été décrit par certaines équipes des transfusions de plaquettes en parallèle, puisqu'on va voir dans les résultats hématologiques, il y a une thrombopénie associée dans la majorité des cas, et certaines équipes proposent des transfusions de plaquettes, mais la démonstration n'est pas évidente de son efficacité. Et puis après, il y a des traitements en phase de recherche qui sont généralement chez les patients non enceintes. Les vaccinations sont en cours de validation et le traitement par immunoglobuline polyvalente peut être proposé chez certains patients immunodéprimés en cas d'infection à parvovirus sévère. En tout cas, pas aujourd'hui et pas chez la femme enceinte. Et puis la question se pose toujours en cas de fœtopathie, de l'intérêt d'une naissance anticipée. Est-ce que le traitement néonatal peut avoir un intérêt plutôt que de prolonger la grossesse? Alors clairement, ici, c'est pas du tout le cas. Faire naître un enfant en état d'anasarque et d'anémie fœtale sévère aboutit la plupart du temps à une catastrophe. Donc vraiment, le message, c'est de faire tout ce qu'on peut pour passer le cap, faire un traitement in utero et permettre une naissance le plus tard possible. Donc, vu le recrutement du CNRHP, on a essayé de déterminer quels pouvaient être les facteurs prédictifs de mauvais pronostic chez ces fœtus. Alors on pouvait décomposer les choses comme ceci. Donc soit les critères prédictifs au moment du diagnostic, est-ce que par exemple le terme de l'infection, le nombre de séroses atteintes, l'atteinte du myocarde, les critères hématologiques initiaux pouvaient avoir un intérêt dans le pronostic. Et puis les critères évolutifs, est-ce que le fait que l'anémie va récidiver malgré le traitement, est-ce que l'apparition de signes maternels secondaires ou est-ce que les signes morphologiques fœtaux qui peuvent apparaître par la suite peuvent aussi avoir un impact sur le devenir à long terme de ces fœtus et de ces nouveau-nés. Donc on a réalisé une étude sur le CNRHP monocentrique sur une dizaine d'années qui a repris tous les cas d'infection sévère à parvovirus. Donc c'est une étude qui a été publiée en 2014. Donc c'est listé de 20 fœtus atteints d'infection documentée à parvovirus B19 avec une PCR positive, avec une atteinte sévère d'anasarque et ou d'anémie profonde. Donc sur notre série de 20 fœtus, dans la majorité des cas, on se retrouvait avec des formes cliniques, on va dire, classiques, qui associaient une anasarque avec une anémie profonde et une PCR positive à parvovirus. Donc ces fœtus ont été pris en charge par transfusion parfois multiple, et puis le devenir fœtal et néonatal a été hétérogène, je vous présenterai les résultats ensuite, mais avec un nombre significatif de morts fœtales, environ 15%. Et puis on a des cas isolés qui sont un petit peu atypiques, avec des cas d'épanchement isolé, d'acide ou pleuraux, avec des traitements parfois compliqués et soit une mort fœtale, soit une prise en charge néonatale difficile avec des séquelles. Donc, on a essayé de décrire au mieux les variétés des signes échographiques pour ces fœtus, pour préciser les choses. Et donc, sur ces 20 fœtus, on a vu que les épanchements étaient présents, donc par définition, puisque c'était le critère d'inclusion, chez tous les fœtus, mais majoritairement au niveau de l'abdomen et du thorax. C'est ce qu'on retrouve dans la littérature, à peu près 90% d'acide associé également à un épanchement péricardique. Ouais. Les épanchements pleuraux également, et l'anasarque complet dans un peu plus de la moitié des cas. L'atteinte développementale et puis de la croissance du fœtus peut aussi être présente avec une myocardite dans à peu près la moitié des cas et un retard de croissance prédominant sur le fémur également dans la moitié des cas. Pour ces fœtus qui ont été transfusés, des IRM cérébrales ont été réalisées au troisième trimestre et pour 29% de notre série, il y avait des anomalies mineures de signification un petit peu difficile à comprendre, mais malgré tout des IRM qui n'étaient pas tout à fait normales avec des élargissements des espaces péricérébraux, parfois une atteinte du cortex avec le cervelet ou l'hypothalamus, et puis parfois des signes isolés tels que l'hypotrophie rénale. Sur le plan hématologique, on retrouve ce qu'on attendait, en moyenne une anémie profonde avec une médiane à 3 grammes par décilitre et une grande majorité de cas de fœtus avec une anémie inférieure à 5 grammes. Et sur la lignée plaquettaire également, une thrombopénie moyenne à sévère avec en moyenne 70 000 plaquettes et environ la moitié de thrombopénie inférieure à 50 000. L'atteinte hépatique était présente dans plus de la moitié des cas et la réponse réticulocytaire était présente seulement dans un tiers des cas au moment de la ponction. Donc est-ce qu'il y a une corrélation entre d'une part les constatations hématologiques et imagerie avec l'évolution clinique de ces fœtus et de ces nouveau-nés? Donc sans rentrer dans les détails de la série, mais à titre d'exemple, et c'est assez illustratif, la corrélation hématologique n'est vraiment pas stricte, bien que la réflexion sur le taux d'hémoglobine initiale est importante. On peut voir là simplement que pour deux fœtus dont l'issue a été fatale avec une mort fœtale, on avait des taux d'hémoglobine certes très bas, entre 2 et 4 grammes, mais là, il n'y avait pas de thrombopénie sévère et il y avait une réponse réticulocytaire. Malgré tout, il y a eu une mort fœtale. Et par contre, pour deux autres fœtus dont l'issue a été favorable, il y avait des pics systoliques très élevés, une anémie fœtale inférieure à 2 grammes, très profonde, et avec le traitement bien mené de transfusion multiple, une issue favorable. Donc c'est un peu plus complexe que ça, plusieurs facteurs rentrent en jeu. Alors pour les fœtus qui ont été transfusés, cette fois-ci, on a essayé de voir, en dehors des critères hématologiques, quels avaient été les critères pronostiques. En cas de régression de l'anémie dès la première transfusion, dans la majorité des cas, les épanchements vont régresser progressivement, et dans ces cas-là, le pronostic est bon. On a des enfants qui évoluent favorablement. Lorsque les épanchements persistent tout au long de la grossesse, c'est là qu'on a des complications et un devenir perturbé, avec soit un décès, soit des hospitalisations longues. En cas de transfusion multiple, c'est là que ça se complique un petit peu, outre les complications liées à la multiplication des gestes, on va avoir des signes maternels qui peuvent apparaître, des complications maternelles, et le pronostic peut un peu être perturbé par tout ça. Toujours est-il que le même facteur pronostique qui est la régression des épanchements est très important, puisque tous les fœtus qui n'avaient plus d'épanchements au bout de quelques semaines ont évolué favorablement. Donc, l'histoire naturelle, donc on peut reprendre ce petit schéma, il y a le pic virémique, la phase anémique secondaire, et puis l'apparition d'épanchements progressifs, qu'on peut décomposer en épanchements qui sont directement liés à l'anémie en elle-même, et puis en épanchements que j'ai appelés primaires, qui vont être liés au tropisme particulier de ce virus envers les organes cibles. Et donc, c'est un peu difficile de décomposer cet anasarc, et c'est l'évolution qui va nous dire un petit peu comment va répondre ce fœtus. Lorsqu'on a une exposition durable au virus et un pic virémique très important, c'est là qu'on va avoir des décompensations aiguës et nécessité de transfusion urgente, parfois répétée. Et un signe important qui est souvent méconnu, c'est l'œdème placentaire, qui va un petit peu compliquer les choses, puisque dans quelques cas, pour nous entre 10 et 15%, on a l'apparition d'un syndrome en miroir maternel lié à cet œdème, avec des signes de type pré-éclampsie, HELLP syndrome. Donc l'intérêt de la transfusion, il va y avoir une correction immédiate de l'anémie, les épanchements secondaires à cette anémie vont régresser rapidement, et il va persister donc uniquement l'œdème primaire au niveau de l'organe cible. Et c'est ça qui va faire le pronostic. Autre élément important, ça va être les complications des transfusions, puisque dans notre série, on a quand même 16% de complications, ce qui est un peu plus que pour les aluminisations, parce qu'il y a des récidives, parce que les termes sont précoces et parce que les conditions de ce fœtus sont perturbées au niveau hématologique et hémodynamique. On a repris un petit peu les séries de la littérature. Donc il y avait les séries de Lille qui étaient très intéressantes sur à peu près 30 fœtus et puis 5 autres. Et nos résultats en termes de survie sont similaires. On a pour nous 70% de survie de ces fœtus, ce qui concorde avec la littérature entre 50 et 85% pour les autres séries. Il faut savoir qu'il y a quand même une grande variabilité dans ces séries. Il faut prendre les résultats avec pincette puisque notamment pour la série avec près de 90% de survie, c'est une série ancienne avec des fœtus qui n'ont pas été tous transfusés, donc parfois des formes plus modérées, je pense, et on n'a pas des résultats, notamment des taux d'hémoglobine initiaux. Donc cette série est peut-être à remettre en question. En tout cas, nos résultats de survie de 70% concordent avec les autres séries qui sont plus homogènes en termes de recrutement. Donc, pour ce qui est je terminerai bientôt, mais pour ce qui est du pronostic à court terme, donc évidemment, l'anasarc est un critère important. Donc, le message, c'est vraiment d'essayer d'arriver en amont ou au début de cet anasarc, en faisant attention lors de l'interrogatoire de chaque femme enceinte aux notions de comptage, et puis lors de l'échographie, savoir reconnaître l'origine anémique de l'anasarc. Les conditions de réalisation des transfusions, plus que la profondeur en elle-même de l'anémie, si les conditions sont favorables, s'il n'y a pas de récidive immédiate de ces anémies, on a un pronostic qui est plutôt favorable. Alors évidemment, même si ce n'est pas significatif dans notre série, le taux de plaquettes et l'activation réticulo-endothéliale en parallèle peut également jouer sur ce critère pronostique, mais ça n'a pas été démontré. Les signes d'accompagnement, le syndrome en miroir maternel, un signe important à connaître, et les épanchements pleuraux réfractaires sont également des signes péjoratifs. À long terme, donc, comme je vous l'ai dit juste avant, ça va être le caractère persistant des épanchements qui va être important. Et puisque malgré les anémies corrigées, il peut y avoir des évolutions défavorables. Et on a vu également des épanchements isolés sans anémie ou après la phase d'anémie qui pouvaient aboutir à des morts fœtales. Au niveau neurologique, donc, ce sont des séries qui sont assez récentes, mais sur les deux séries françaises de Lille et la nôtre, il y avait des atteintes de l'imagerie cérébrale dans un peu moins d'un tiers des cas, et ces signes sont mineurs, comme je vous l'avais présenté juste avant, et on a observé quand même un ou deux cas d'atrophie sur la série de Lille, donc c'est pas non plus nul. Sur le pronostic clinique neurologique, à court terme, dans la première année de vie, généralement, ce sont des enfants qui vont très bien. Par contre, il y a une série un petit peu plus inquiétante, c'est la seule étude qui voit à long terme le pronostic de ces enfants, qui retrouve à peu près 30% de retard psychomoteur modéré à sévère. Donc vraiment, d'autres études sont nécessaires pour voir le pronostic neurologique à long terme. Et ce pronostic neurologique est plus souvent lié à la répétition des transfusions plutôt qu'à la profondeur de l'anémie. Pour terminer, donc, deux cas intéressants atypiques. Ce cas de distension majeure abdominale chez un enfant de 2 ans, séquelaires, donc des séquelles pariétales liées à la fois à la distension mécanique liée à l'ascite et également au tropisme musculaire du virus avec une atteinte musculaire, une atrophie des muscles transverses. Ça montre la variété possible et le tropisme du virus qui est particulier et parfois n'est pas encore bien connu. Et puis un autre cas atypique, c'est ce cas de parvovirus qui a été diagnostiqué sur un épanchement thoracique bilatéral réfractaire, isolé, compressif, et dont la PCR est revenue positive à parvovirus de manière assez étonnante. Et malgré un drainage efficace, il y a eu une récidive et on a dû reposer plusieurs bains, et c'est un fœtus qui est malheureusement décédé. Donc se pose la question également du mécanisme dans ces cas particuliers. Est-ce qu'il y a une corrélation avec le système lymphatique, une inflammation particulière ? C'est méconnu. Toujours est-il, j'en termine là, le parvovirus, c'est une infection qui est, la plupart du temps, qui n'est pas inquiétante chez l'adulte, mais pendant la vie fœtale, ça reste quelque chose à connaître, puisqu'il y a quand même une phase critique avec une mortalité non négligeable. Par contre, une fois que le cap est passé, on a souvent quand même une évolution favorable. Voilà, je voulais en profiter pour remercier donc, toute l'équipe du CNRHP, Anne Cortet, Bruno Carbone en particulier, pour ces années passées à Saint-Antoine. Et je pense que l'héritage d'Yves Brossard est bien passé. En tout cas, les messages sont bien passés. Merci.